À suivre et lancé par les éditions Casterman en 1978. Alors, il faut voir qu'à l'époque où cette revue apparaît, Casterman n'est pas connu comme un éditeur de bande dessinée adulte, ou si peu. Il est surtout connu pour son catalogue de livres pour enfants, et d'autre part aussi en tant qu'éditeur d'Hergé. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alix de Jacques Martin, ou Les Cratras et Chevalier Ardent de Cranalls. C'est vraiment un catalogue qui est réduit à sa plus simple expression. Dans quelque chose de très traditionnel, c'est à nouveau, comme Dupuis et Lombard l'était aussi, un éditeur d'obédience catholique. Qu'est-ce qui amène ça? Ben, on a un certain Didier Plateau qui fait partie de l'équipe éditoriale de Casterman, qui voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très exploité au sein de la maison, qui serait peut-être intéressant de davantage étoffer le catalogue de bande dessinée. Et on fait appel à un certain Jean-Paul Mougin, qui a travaillé à la rédaction de Pif Gadget. Alors ça peut paraître étonnant, mais Pif Gadget est aussi la revue qui a révélé, en tout cas Hugo Pratt, au public francophone. Donc le premier numéro paraît avec une maquette très sobre, qui est signée Étienne Robial, donc qui était le fondateur des éditions Futuropolis, graphiste bien connu, et qui a aussi créé la maquette de Métal Hurlant, mais qui est très différente de la maquette de Métal Hurlant, et qui est quelque chose de très très sobre, qui peut presque se rapprocher de refus littéraire, et ce n'est évidemment pas un hasard, puisque d'emblée, dès le numéro 1, l'éditorial de Jean-Paul Mougin proclame qu'à suivre sera l'irruption de la bande dessinée dans la littérature, ou le contraire, je ne sais plus, l'irruption de la littérature dans la bande dessinée plutôt. Voilà. D'abord, il y a une matrice qui va servir aux autres récits, qui est la balade de la mère Salée, d'Hugo Pratt, hein, qui est le premier épisode où on voit apparaître Corto Maltese, qui est un long récit qui fait autour de 170 pages, qui est d'une longueur tout à fait inhabituelle pour l'époque. Où l'intrigue finalement est assez rétrécie, où on va beaucoup jouer sur les rapports ambigus qui unissent les différents personnages, sur énormément de non-dits, etc. C'est un bouquin qui a eu énormément d'impact, qui a été publié par Casterman, donc il était déjà au catalogue de la maison avant le lancement d'À suivre. Et bah, Mougin fait un peu le tour des auteurs qu'il a envie de publier, leur met entre les mains la balade de la mère Salée en leur disant bah, écoute, si tu veux me faire quelque chose qui a cette amplitude-là, qui est d'un format d'une longueur comparable, ça nous intéresse. Et c'est comme ça qu'il va voir Tardi qui fait déjà un petit peu partie de la maison, puisque 2 ans plus tôt, Casterman avait commencé à publier les aventures d'Adèle Blanc-Sec. Dans le premier numéro, on retrouve ici même deux Tardi et Forrest. Qui est un récit étonnant parce que c'est vraiment peut-être la quintessence de ce qu'est une relation de dessinateur-scénariste dans une bande dessinée. Tardi a dit lui-même, Forrest est le seul scénariste avec qui j'ai réussi à m'entendre. Et c'est vrai que c'est à la fois un grand livre de Tardi où on retrouve ces personnages complètement paumés, ces personnages qui n'arrivent pas, comme il le dit lui-même. Hein, donc ce Arthur même qui vit comme ça, juché dans une petite maison, sur des murs qui séparent différentes propriétés. Donc ça, on voit toute l'imagination de Forrest, hein, cette volonté de créer des univers avec une très grande force poétique, où les règles de la logique sont quelque peu perturbées. Ça, c'est ce qu'on retrouve aussi. Donc il y a quelque chose d'assez miraculeux avec ça, et qui va avoir énormément d'impact. Hein, dès le numéro 1. Forrest seul va réaliser aussi un de ses très grands récits, qui est l'agent fantôme vu de l'orchestre. Kronstein disait de Forrest que c'était un défricheur d'imaginaire, mais c'est vraiment ça qu'on retrouve avec une très grande imagination dans le fait de créer un univers cohérent, mais dans lequel tout est toujours susceptible de se produire. Et on se rend compte aussi que Forrest est un très très grand dessinateur. Oui, dans la revue, il y avait aussi Muñoz de Sampaio, qui venait de Charlie Mensuel, et qui publie notamment Alaxinor, mais aussi au départ le Barajo, parce que je pense qu'il y avait des histoires de droit avec Choron, qui était responsable éditorial de Charlie Mensuel, donc ils ne pouvaient pas continuer Alaxinor dans un premier temps, et donc ils ont créé le Barajo, qui est une série assez remarquable, qui a pour cadre un bar, qui est tenu par un certain Joe, et qui fonctionne comme une espèce de microcosme où viennent en quelque sorte échouer toute une série de personnages. Sinner est parmi eux, mais on retrouve là toute une série de gars d'origine souvent géographique très très différente, qui est une manière de traiter de l'exil, de traiter de la question de l'identité. Et puis oui, il y a Comès aussi qu'on voit dans un suivre, qui sera un des grands succès de librairie de l'époque, avec Silence, puisqu'il venait du journal Tintin. Puis là, on se trouve aussi dans une tendance qu'on peut qualifier de régionaliste, qu'on trouve aussi chez quelqu'un comme Auclair, qui est très présent dans, dans la foulée de tous ces mouvements qui avaient émergé dans les années 60-70, qui traitent de la communicabilité, de la question de la différence, tout ça inscrit au plus profond des Ardennes belges. C'est une revue, dans les premiers numéros, tout est en noir et blanc, et c'est vraiment une volonté. Et là, on se rapproche aussi, dans cette très grande sobriété, de revue à vocation littéraire. Ceci dit, ce n'est une revue qui va révéler peu d'auteurs. En fait, pratiquement toutes les grandes figures de la revue sont des gens qui avaient déjà fait leurs armes dans d'autres publications. Parfois Tintin, il y en aura quelques-uns, de Métal Hurlant, de Charlie Mensuel. Alors à côté de ces figures-là, il y a toute une série d'autres créateurs qu'on va voir. Fmur, par exemple, qui va réaliser notamment avec Jeanne d'Arc une de ses œuvres les plus remarquables. Mougin avait beau n'avoir fait confiance qu'à des gens qui étaient déjà entrés dans le milieu, mais il faut bien voir aussi que le cadre même de la revue va permettre à ces gens-là de donner la pleine mesure de leur talent, et le fait même de pouvoir s'exprimer sur des récits de longue haleine avec un nombre de pages très abondant, ça sera ressenti par beaucoup de ces créateurs comme une véritable libération. Qui est-ce qu'on retrouve là-dedans aussi, François Skuyten et Benoît Peters avec Les Cités Obscures, hein, qui est cette création qui est quand même assez atypique là aussi, où il n'y a pas vraiment de héros, mais tout est basé sur un univers, une espèce d'univers parallèle au nôtre, où la notion d'espace est assez fondamentale. Alors pas mal d'auteurs italiens, notamment comme Altan par exemple, qui est une grande figure aujourd'hui, malheureusement fort oubliée, avec notamment Ada dans la jungle, qui sont ces récits très noirs où les personnages ressemblent à des étrons, on dirait que plus le récit avance, plus ils sont en train de fondre comme ça. Enfin, une espèce de parodie de roman populaire, mais avec là une vision très, très noire et très sarcastique de l'humanité. Il y a Milo Manara aussi qu'on retrouve, et c'est peut-être là qu'il a commis ce qu'il a fait de moins raté, on va dire, ou de moins beauf. Avec H.P. Giuseppe Bergman et puis Jour de colère. Il y a Claude Auclair qui vient là avec ses mythes celtes, etc. Enfin, son côté un petit peu baba cool, sympathique, attachant et un peu insupportable aussi. Puis on va voir apparaître là par exemple Ted Benoît avec Berceuse électrique, œuvre importante aussi dans ce renouveau de la ligne claire, hein, qui est vraiment très très, très très présent à la fin des années 70, début des années 80. Loustal et Paringo notamment, hein, qui viennent avec ses récits souvent. Basé aux États-Unis ou avec ce système à l'ancienne, on va dire, de texte sous l'image. On travaille beaucoup sur les atmosphères, sur la complémentarité du texte et de l'image. Teulet aussi, qu'on voit là, par exemple, avec Jean de France, Jean d'ailleurs, donc qui sont ces espèces de romans photo où Teulet se rendait dans des coins perdus de la France et faisait des espèces de reportages en bande dessinée, hein, pas très loin de ce que fera le magazine Striptease par la suite. Il y a toujours eu des choses intéressantes, c'est là qu'on va voir quand même de Crécy avec Léon Lacam, là, même s'il avait déjà publié Aux humanoïdes associés, on va retrouver Johan de Maur avec La Vache, ou encore Blutch avec Peplum, mais chose qui mérite d'être soulignée, c'est qu'une partie de l'histoire ne paraîtra pas. Semble-t-il que la rédaction n'ait pas souhaité la faire passer et en trouver ce truc de Blutch absolument incompréhensible et beaucoup trop expérimental pour la revue, ce qui fait qu'il sera, c'est pas de la censure politique, il sera en tout cas caviardé et le récit, on ne le découvrira dans son intégralité que lorsqu'il sera publié justement, il sera pas publié par Casterman, il sera publié par Cornelius bien plus tard. Alors, ça, évidemment, je n'ai pas beaucoup de détails, mais ce qu'on m'a dit souvent, oui, il y a eu pas mal d'auteurs intéressants à suivre, mais il faudrait faire une liste avec tous les gens que Jean-Paul Mougin a refusé. J'en connais quelques-uns, mais c'est assez affolant. Voilà, il y avait un peu une espèce de prise de risque un peu minimale comme ça, où on a effectivement fait confiance à des gens qui avaient déjà fait leurs armes ailleurs. Ce qu'il faut voir aussi, c'est les premiers numéros étant noir et blanc, la couleur va apparaître assez rapidement. On va voir d'ailleurs que ces longs récits qu'annonçait Mougin dans l'éditorial du premier numéro vont devenir d'ailleurs de plus en plus courts. On va voir de plus en plus de récits qui vont plutôt faire l'objet de volumes de 46 pages en couleur, donc vraiment des formats très très standards. Et c'est vrai que les dernières années sont assez peu glorieuses. Hein, c'est vrai que c'est une revue qui a duré presque 20 ans, parce qu'elle s'arrête en 97, mais vraiment à bout de souffle. Ce qu'il faut noter, qui me paraît important aussi, c'est qu'à suivre est un petit peu la dernière de ces revues françaises qui apparaissent dans les années 70, enfin 60-70. Donc on a eu Charlie Mensuel les codes des savanes, flûte glaciale, métal hurlant, à suivre, apparaît dans la foulée de tout ça, sauf qu'il y a une très grosse différence, c'est que cette fois-ci l'initiative vient d'un gros éditeur qui est déjà installé. Les autres revues, là, étaient créées par un petit noyau de gens, dont certains étaient eux-mêmes auteurs, et qui étaient quasiment, ce serait anachronique de parler ça, mais c'était finalement un petit peu de l'édition indépendante avant l'heure. Des choses comme le Square, comme les humanoïdes associés ou les éditions du fromage avaient été montées de toutes pièces. C'était vraiment des tout petits machins au début, et puis qui, pour certains, vont disparaître, d'autres vont grandir.